France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Dans la catégorie des canulars, il y a ceux qui fonctionnent, parfois même au-delà des attentes de leurs créateurs, et ceux qui font chou blanc parce qu'ils ont été mal conçus ou plus souvent parce que la supercherie a été trop vite révélée. L'histoire de Marc Ronsrail, écrivain fictif inventé par Claude Bonnefoy, qui le célébra dans le 100e numéro de la collection des écrivains de toujours au Seuil, en constitue un exemple magnifique dans le champ littéraire. Tous les ingrédients du canular réussi étaient pourtant en place et il fonctionna d'ailleurs très bien dans un premier temps. Mais par la faute d'un seul homme dont vous apprendrez dans quelques instants l'identité, la mèche fut trop tôt vendue. 30 ans tout juste après l'affaire, Perrine Carvran la racontait dans un documentaire réalisé par Marie-Christine Clauset et diffusé pour la première fois sur France Culture dans La Fabrique de l'Histoire du 24 juin 2008.
Et maintenant, on va parler alors d'un poète qui s'appelle Marc Ronsrail, qui est très très peu connu, et pourtant, on lui a consacré le 100e volume, hein, c'est pas le 99e, mais le 100e volume de la fameuse collection Écrivains de toujours aux éditions du Seuil. Alors qui est Claude Bonnefoy? Donc vous avez écrit, parce qu'il est mort à quel âge?
Il est mort à 32 ans.
32 ans, oui.
En 1973.
Il faisait l'escalade d'un...
Dans un accident de montagne qui est resté du reste assez mystérieux, enfin sur lequel il y a eu plusieurs interprétations. Et certains de ses amis ou certains critiques ont pensé que c'était peut-être un suicide lié à soit à un amour malheureux, soit peut-être à une forme d'impuissance d'écriture. Il était arrivé à un point où on ne voyait pas très bien où il pouvait aller plus loin qu'il avait fait. On rejoint une certaine mythologie puisque tomber au moment où il allait, au cours d'une escalade, rejoindre une petite grotte qui serait pour lui l'image du saint maternel.
Donc c'est un passant, c'est un auteur qui s'est présenté à quelques-uns d'entre nous, brillant, agréable, beau garçon. Il y a une photo qui témoigne, mais personne ne pouvait savoir que son destin était déjà scellé et qu'il allait disparaître assez rapidement. Il était là, on s'élance. Oui. Des poèmes, des essais, c'était un grand désordre. Un grand désordre, et il nous demandait en quelque façon de bien vouloir jeter de longs coups d'œil sur ses manuscrits et lui apporter l'aide que l'on se doit de donner à des jeunes gens qui ont envie d'écrire et qui ont commencé d'écrire.
Mais on s'aperçoit en lisant votre petit ouvrage là que Marc Ronsrail, finalement, on ne peut pas deviner qu'il va se suicider parce que finalement, ça va être un jeune homme, il va dans les boîtes de nuit, c'est un noctambule, il va dans les bistrots, il devient un directeur artistique d'une agence de publicité, c'est un homme dans le vent.
Non, mais c'est presque quelque chose, c'était presque un personnage double, d'une certaine manière. Oui. C'est un personnage double et ça a beaucoup nuit d'ailleurs, à certains moments, à sa réputation, dans la mesure où d'un côté, il était un Parisien assez mondain et lié à des gens qui pouvaient passer, au regard d'un milieu littéraire assez strict et d'une avant-garde un peu terroriste, lié à des gens qui pouvaient passer pour très légers. Et de l'autre côté, il écrivait des œuvres difficiles, secrètes, qui n'arrêtaient pas de bouger, de se remettre en question.
Il a même une liaison avec une actrice.
C'est pas mal. Et cette actrice, exactement comme sa belle-mère, la très jeune femme que son père a épousée quand lui avait 8 ans.
Ses parents sont séparés aussi, comme les autres d'ailleurs.
C'est ça. Cette actrice, comme sa belle-mère, qui a été aussi son professeur de sciences naturelles et qui lui a appris énormément de choses et dont l'influence a certainement été très profonde sur lui, ces deux femmes étaient d'origine slave toutes les deux.
Balzac, Spinoza, Beckett, Proust, Kafka et Marc Ronsrail. Quoi de plus audacieux que de célébrer un jeune auteur inconnu au sein d'une collection dévolue aux légendes de la littérature? Quoi de plus efficace pour le lancer et le consacrer que de le faire entrer dans la mythique collection du Seuil, les écrivains de toujours? Et quoi de mieux pour faire parler de la collection et de la maison d'édition par la même occasion que de profiter de la sortie du 100e numéro? Ce sera donc Marc Ronsrail, Jeune auteur prometteur, poète et prosateur expérimental, fauché à la fleur de l'âge. Et l'ouvrage sera coordonné par le discret et brillant critique des Nouvelles littéraires et de La Quinzaine, Claude Bonnefoy. Il va réunir dans ce livre les études consacrées aux jeunes prodiges, ainsi que les coupures de presse qui ont jalonné sa brève carrière. À la sortie du livre, en avril 1978, Claude Bonnefoy sera reçu sur le plateau de Bernard Pivot.
Son premier livre, c'est un recueil de poèmes.
Son premier livre est un recueil de poèmes qui s'appelle Sol mémorable et qui est encore un recueil influencé par une poésie de haut vol au style de Saint-Jean de Perse.
C'est ça. Oui, non, je veux dire que autant que je me souvienne, j'ai eu beaucoup de mal à trouver les œuvres de Ronsard, mais quand je les ai trouvées, je me suis rendu compte que c'est le premier livre qui n'est pas renié, mais il avait renié au moins trois ouvrages auparavant.
Ah oui. Mais il a renié.
Vous êtes au courant.
Oui, mais ça.
Il avait renié Une curieuse platitude, je crois.
Oui.
Et puis un autre qui s'appelait Le diptyque avec l'anus solaire. Et La Grande Bastide, qui étaient quand même des ouvrages fondamentaux.
Bien sûr, non, mais il a renié quelques ouvrages. Ouais. Mais il en a gardé un certain nombre d'autres qui sont les ouvrages...
Dont L'Architaupe.
L'Architaupe.
C'est un roman, ça.
C'est un roman.
Qui a eu des voix au Goncourt, comme quatre
Qui a eu quatre voix au Goncourt, et qui est un roman extrêmement curieux, parce qu'à travers ce roman, on voit se manifester un certain nombre plusieurs formes romanesques, depuis la forme romanesque du récit le plus traditionnel, jusqu'à la décomposition totale du récit, à la fin du roman.
On ne sort pas. Les digitales sonnent l'heure. Doigts coupés, routes barrées, fin des fleuves impassibles. Lapin lascif, lac, cils et laxatives saxifrage. Néon au beurre noir après l'émeute. Vous mettrez, madame, une sangsue sur votre salpingite. Désir en creux. Conque de basalte. Puits de lave sur les parcours de la pluie. Au creux des herbes, au coin des causses, dans les montagnes ravinées. Route de rosée, où boire la fraîcheur labile des cimes, le souvenir encore tendre des glaciers en mal de fonte, conduisez-moi vers les repères. Terrier roux du renard, cache des biches, grotte où le chasseur dormait sur sa massue, cassure du roc et faille de la terre où la vie se garde des météores et des prédateurs qu'elle inventa. Sol mémorable.
Dans les poèmes du dit Ronsard que cite Claude Bonnefoy, il y a un peu de tout.
Denis Roche, éditeur.
Ils ne sont pas très bons, mais quelqu'un qui essaierait de décrypter ça retrouverait... des bouts d'un peu tout le monde, de tous les contemporains, c'est-à-dire les mauvais poètes, les bons poètes, les poètes rustiques, les poètes urbains, les poètes d'avant-garde, les poètes ringards, c'est un peu ça la marque de fabrique du jeune Ronsard.
Et vous vous souvenez un peu du contexte littéraire à l'époque où est sorti cet ouvrage ?
Tout à fait, c'était la pire période de la littérature française moderne, c'était l'époque où les gens de tel quel, les structuralistes, les communistes, les généticiens et toutes sortes de prêcheurs, j'avais fait alliance contre une certaine forme de littérature, disons, moins moderne que celle qu'ils prenaient. Bon, c'était une période difficile. C'était la période du texte. Voilà. Et Claude Bonnefoy, dans son travail, justement, essaie de montrer que peut-être des voix nouvelles vont s'exprimer qui ne seront pas toutes conformes au modèle qui, à ce moment-là, l'emportait. On peut dire ça. Par contre, ça, il avait compris qu'il lui fallait se dégager de l'esprit de l'époque.
Marc Ronsard n'existe pas. Il n'est rien d'autre qu'un canular. Pire encore, un canular trop vite éventé qui n'a pas marché. Et pourtant, dans le livre de Claude Bonnefoy, on trouve des photos de Marc Ronsard. Marc Ronsard enfant, Marc Ronsard dans des cocktails littéraires, et même Marc Ronsard en compagnie de Bernard Pivot. Mais les archives du Seuil ont parlé. Et tous les complices, auteurs, critiques, éditeurs, journalistes ou proches, ont avoué. Les articles du livre sont des pastiches des principaux courants critiques de l'époque et sont l'œuvre de Claude Bonnefoy. Quant au jeune homme photographié, ce n'était qu'un homme de paille. Le livre avait pourtant tout pour marcher. Un léger parfum de polémique, une fausse bibliographie digne de Loulipo, et la complicité de la crème du Tout Paris littéraire. Et pourtant, ni Marc Ronsail, ni le Canular, et encore moins le contenu du livre n'ont marqué les mémoires. Ce numéro 100 n'a provoqué à l'époque qu'un léger agacement et une brève colère. Denis Roche, grand ami de Claude Bonnefoy, était un des meneurs de la supercherie.
Les libraires étaient furieux, les représentants étaient furieux. Et j'ai reçu un certain nombre de lettres d'insultes sur le thème très curieux, et ça a été une réaction assez forte chez les libraires. Sur le thème, c'est lamentable de faire un faux jeune écrivain, alors qu'il y a tellement de jeunes écrivains qui écrivent des choses admirables et qui ne sont pas publiées. Voilà. Alors ils ont joué les grandes âmes, les grands esprits, et les ventes se sont arrêtées nettes. Vraiment, nettes. Je pensais au moins qu'il y aurait une vente sur les collectionneurs, les maniaques, les gens qui adorent ces trucs-là, et qui savent que quand il y a un faux, il disparaît très vite de la circulation et que ça devient un objet rare, très recherché et cher. Ça a été le cas de la chasse spirituelle de Rimbaud dans les années 50, et puis bon, de beaucoup d'autres. Mais non, même pas.
Alors je vais vous dire, ça a été un flop total.
Robert Sabatier, auteur.
On s'attendait à une polémique, à des articles dans les journaux, comme ça avait été le cas pour la chasse spirituelle de Rimbaud. Et en fait, ça a été divulgué tout de suite. Quelqu'un a lâché le morceau en disant « c'est une blague, c'est un canular », si bien que ça a dû faire à l'époque quelques échos et que ça s'est arrêté tout de suite. Il y avait un coup de publicité, évidemment, pour la collection Écrivain de Toujours. Je me souviens que tous les espoirs sont tombés dès lors que du jour au lendemain et peu après la publication, le Tout Paris littéraire et Germano Pratin étaient au courant.
Le magazine littéraire, même... Chacun connaît l'excellente collection du Seuil Écrivain de Toujours. On aurait pu penser que pour le 100e titre de cette collection, les éditeurs auraient eu à cœur de présenter un auteur, inconnu peut-être, mais de valeur certaine. Au lieu de cela, on nous donne Marc Ronsail. Inconnu, il l'est, certes, mais il aurait mieux valu pour lui qu'il le restât. N'est pas auteur maudit qui veut. Il ne suffit pas de se faire photographier avec Philippe Solers, Bernard Pivot, Robert Sabatier. Décidément, notre littérature ne sort pas grandie de telles opérations prétendues littéraires. L'Humanité, 15 juin 1978. Le type en question est censé s'être rompu les os en montagne. Le livre est constitué de pseudo-essais critiques sur son œuvre fictive. Mais les faux de Claude Bonnefoy sont appliqués. Ils sentent trop la besogne. On reconnaît tout le monde, de gauche à droite, de la rue Jacob à celle des Saint-Pères. Une supercherie par alliance et entre soi.
Un jour, il me téléphone, il me dit « Écoute, j'ai un petit problème d'édition, il faut que je te demande conseil. » J'ai signé un contrat pour écrire un livre sur quelqu'un qui n'a jamais existé, un écrivain, raconter sa vie, son œuvre, etc. Et au bout d'un an, son livre étant prêt, il est allé à la table ronde. À la réception, il a dit « Je voudrais voir monsieur Untel. » Et la dame lui a dit « Mais monsieur Untel ne travaille plus chez nous depuis 6 mois. » Et donc, il me demandait conseil. Il m'a dit, mais qu'est-ce que je peux faire de ça? Alors, j'avais un peu tendance à penser rien. Et donc, j'en parle en comité littéraire, dans cette salle-là. Moi, j'étais entré au Seuil en 71 pour m'occuper d'un certain nombre de collections, et notamment des écrivains de toujours. Et quand ils ont créé la collection, ils avaient tous rigolé en disant, mais si jamais on atteint un 100e numéro... qui a fait rire tout le monde, évidemment, ça serait très amusant de faire un faux. Proposition de Paul Flamand lui-même. J'évoque le problème posé par ce manuscrit, je lève les yeux et je vois les yeux de Paul Flamand qui était juste en face de moi, qui pétillait à fond. Et ce n'était pas son genre de pétiller en plein comité. Et je comprends tout d'un coup, je lui dis, mais vous pensez vraiment... à ce à quoi je pense que vous pensez. Et il m'a dit oui, venez me voir après le comité. Tant que ça tombait pile, on avait largement le temps de concocter notre affaire et de le sortir avec le numéro 100. Donc je propose ça à Claude Bonnefoy, qui trouve ça absolument emballant. Simplement, il fallait adapter son manuscrit à la collection.
Gilles Lapouge, critique et auteur.
C'est un petit peu la réaction d'un homme qui a toujours exercé le métier de critique littéraire, critique au sens journalistique du mot. Chez certains critiques, la vocation littéraire se traduit par une manière de démolir tout ce qui n'est pas d'eux. Lui, pas du tout. Il était extrêmement présent, extrêmement ami au fond des écrivains. Mais il y avait quelque chose qui lui manquait, c'était la création proprement dite. Alors, il s'était lancé là-dedans, à la fois comme critique et comme écrivain, si vous voulez. C'était une manière de faire se rejoindre ces deux personnages qu'il y avait dans Bonnefoy.
Relevé de vestiges, investigation du passé, l'œuvre de Ronsail se donne comme mise à nu de la mémoire du sol. Entendons, de la terre, lieu de notre histoire. Qui en douterait? Le titre du premier recueil l'atteste. Pareillement, le texte de l'architaupe. Sur ces deux points, les commentateurs sont unanimes. Aucun d'eux, pourtant, n'a posé la question primordiale. Qu'est-ce qu'un ou une architaupe? Comme s'il allait de soi, leurs analyses le sous-entendent, qu'archi implique le monumental, le méga, le maxi, architaupe comme archicomble, archifou, martial égale taupe énorme, monstrueuse, non point vulgaire talpa europea, 14 cm de long, mais fouisseuse géante creusant obstinément ses galeries. Bon, seulement, le projet de Martial n'est pas d'être l'homme taupe ou entopé, fouilleur aveugle, baffreur de lombriques. Le référent du récit, on l'accorde, n'est pas la fouille, la terre remuée, mais la mémoire. Mais le préfixe sélénisant, reprenant sens d'ancienneté, nomme une taupe archiviste, archéologue. Relire. Parfois les textologues l'oublient. Ronsail ou le travail de sape de la langue, par Frédéric Mathias.
On entend dire que les critiques vivent des auteurs, que les critiques commentent.
Un livre des voix, France Culture, 24 mai 1978.
Mais ne peut-on pas dire aussi que les écrivains vivent de et par la critique qui les fait connaître? Les critiques ne sont pas forcément des écrivains ratés, mais des écrivains discrets qui font passer l'œuvre des autres avant celle qu'ils pourraient écrire. Serviteurs de la littérature, leur originalité, leur don, leur temps sont donnés aux autres, à ceux qui publient. Le livre sur Ronsail n'aborde pas ces questions et c'est dommage. Monsieur Bonnefoy, son auteur, s'est encore une fois effacé devant son écrivain favori, Ronsail, fut-il fictif.
Quoi, non, mais elle est bonne, cette balle.
Mort jeune, tragiquement, laissant une œuvre relativement brève, mais singulière, énigmatique, provocante, Ronsail, dans son destin, réunissait les conditions nécessaires à la formation d'un mythe. Émouvant Minette en mal d'idole et lecteur de la presse à sensation, l'image du jeune athlète, playboy aimé d'une vedette à l'écran, familier du tout Paris, publicitaire en renom, accessoirement connu comme écrivain et se tuant en montagne à la conquête de l'exploit. Fascinant les écrivains, les critiques, les universitaires, la figure du poète cachant comme Proust, référence jamais citée mais toujours implicite, sous la parade mondaine une recherche exigeante, mieux, poursuivant une entreprise de dynamitage de la littérature qui s'achève dans le silence et la mort. Toutes deux n'en procèdent pas moins des mêmes données ou présupposées, l'auteur, le texte, le lien surtout entre la vie et l'œuvre. De même que l'existence de l'œuvre justifie la biographie, le textologue ne peut jamais totalement oublier ni qu'il y eut un auteur, ni son savoir, réel ou légendaire, de l'auteur. Enfin, la mort. Les aventures posthumes de Marc Ronsail ou la cristallisation d'un mythe, par Jacques Lebourg.
Le plus important était évidemment d'imaginer une construction du livre qui se prête à une iconographie abondante.
Denis Roche.
C'est le principe de la collection quand même. Et donc on a beaucoup travaillé là-dessus, en s'amusant évidemment. Il a fallu qu'il trouve un jeune homme pour jouer le rôle de Marc Ronsheim. Il en avait un dans ses relations familiales.
Ah, j'ai été choisi il y a une trentaine d'années d'ailleurs.
Philippe maintenant. Morand, incarnation de Marc Ronsheim.
J'ai été choisi parce que j'étais le neveu d'une amie de l'écrivain Claude Bonnefoy. Donc elle lui a parlé de moi. Moi à l'époque j'étais jeune publicitaire. Donc pour moi c'était une occasion assez drôle de faire de la promotion personnelle quelque part. Peut-être que la description qu'ils en ont faite, c'est-à-dire un jeune homme très bougeant beaucoup, très sortant beaucoup, ne correspondait pas forcément exactement à un homme à femme, vous voyez, pardon. C'était pas forcément la description exacte, mais enfin disons en gros, ça correspondait. Et en plus, j'avais physiquement, je pense revenir à leur fantasme de jeune publicitaire, disons.
Il fallait qu'on ait l'autorisation de ce jeune homme et de sa famille, et que sa famille soit d'accord pour nous prêter des photos de famille du jeune écrivain Ronsheim. Donc il y avait un certain nombre de choses comme ça à organiser. Enfin, ça s'est fait assez facilement. Il a fallu trouver une jeune femme qui accepte de jouer le rôle de la starlette, qui était la maîtresse de Marc Ronsheim. Ça a donné lieu à quelques épisodes très rigolos que je ne vous raconterai pas.
C'est dommage.
Oui, c'est dommage. Donc ça, c'était une amie à moi, très très belle. Et il a fallu évidemment qu'on aille, Claude Bonnefoy et Philippe Morand, qui jouaient le rôle de Marc Ronsheim, et moi, à Saint-Jean-d'Angély, où avait vécu Marc Ronsheim, il était enfant, il a fait ses études. J'ai photographié aussi Philippe Morand en train de s'entraîner dans le vieux stade de Saint-Jean-d'Angély. On s'est bien amusé, on a passé une semaine là-bas, on s'est vraiment bien amusé.
Et puis après, on est revenu avec toute la batterie de photos qui existe. Il y en a sûrement beaucoup plus, mais bon, il a choisi celle qu'il voulait. On est allé aussi voir Bernard Pivot sur le plateau de... C'était Apostrophe, je crois, à l'époque. Donc, en fait, je ne suis jamais apparu à l'écran, disons. Mais j'étais là quand il a parlé du bouquin. J'étais dans la coulisse. Mais sinon, effectivement, j'ai fait plusieurs photos, des cocktails littéraires pour rencontrer Philippe Solers, Françoise Bastide ou d'autres... pour bien montrer que le jeune homme Ronsheim était quand même très introduit dans le milieu. Et puis voilà, quoi.
Claude Bonnefoy m'a téléphoné. Moi, ça m'a tout de suite amusé. Inventer un poète de toutes pièces, j'étais d'accord. Alors j'ai joué le jeu. Je me demande même si à l'époque... j'avais pas donné à Claude Bonnefoy quelques faux poèmes de Ronsheim que j'avais écrits. Mais je ne sais pas s'il y en a dans le livre.
Et vous avez aussi fait une séance photo pour ce livre, Robert Sabatier.
Oui, au cours d'un cocktail, j'étais censé rencontrer Ronsheim, qui était joué par un jeune acteur. Alors là, je prends l'air intéressé, sceptique, un peu agacé de l'auteur connu qui rencontre le jeune homme qui est en passe de devenir le génie du siècle.
Alors ça,
Philippe Morand.
C'est une photo de moi, une photo sur la plage de Foura en 57. Je suis au milieu, à gauche c'est mon frère, à droite c'est Claude Morand, ma tante. Alors qu'on a dit que Madame Gabrielle Ronsheim et Maurice Remontrant, le copain. Voilà. Bon, j'en prends une autre sur Marc Ronsheim plus précisément. Donc... La boîte de nuit de Régine, New Jimmy's, à l'entrée du New Jimmy's avec Fabienne Corot. Ça a duré une demi-heure. Bonjour, bonsoir. Merci, à bientôt. Donc là, c'est pareil, la rotonde. Sortant du boîte à la mode, je pense que c'est New Jimmy's aussi en gros plan. Bon, là, c'est sur Claude Bonnefoy de dos, sur autour d'un bassin.
On revenait de La Rochelle, de nos vacances à La Rochelle, chez mes parents.
C'est moi, oui.
Et à quelques, bon, je sais pas...
C'est moi. faisant des exercices.
On avait fait 100 km.
Nicole, bonne foi.
Il n'y avait pas un chat, c'était le matin, il était 7h30.
Panne. On ne peut plus démarrer.
Je suis très heureux d'être debout à cette heure-là, mais enfin bon, on a fait quand même quelques photos.
On est allé à la ville, la petite ville la plus proche, Saint-Jean-d'Angély. Et là, on s'est installé pendant 3 jours. Et je pense que là, Claude a trouvé le décor de Ronsard.
Alors ça, c'est chez ma tante. J'avais 18 ans.
C'est là qu'il l'a pensé. C'est devant cette ville tout à fait du décor de Ronsard. C'est un décor pour Ronsard.
Ma tante qui habitait rue des Quatre Vents.
Heurtebise. Et qui vendait des vins, je sais pas quoi, des vins, du vin. Enfin, c'est quand même quelque chose. Et puis toutes ces vitrines. Et puis alors cette église où il y a une transparence comme ça. Mais c'est extraordinaire. Là aussi, une église qui n'existe pas et qui existe en même temps. Enfin, tout était fait pour le décor, pour Ronsard. Et puis il était bon qu'il soit ailleurs que chez lui pour commencer à l'écrire. Certainement. Parce que là, il prenait des notes. Hein. Je le voyais. Et oui, c'est ça. Il écrivait en même temps. Par les images.
1900, 5 février. Naissance à Fenioux de Jacques-Bertrand Ronsard. 1939, mariage le 12 mai à Saint-Jean-d'Angély de Jacques-Bertrand Ronsard et de Jeannine Marchereau. 1941, 29 janvier. Naissance de Marc Ronsard à Saint-Jean-d'Angély. 1945, octobre. Marc entre à l'école maternelle. Le même mois, le divorce de ses parents est prononcé. 1950, janvier. Mariage de Jacques-Bertrand Ronsard et de Gabrielle Paskowski. La jeune femme est bien acceptée par Marc. 1957, Marc est reçu au baccalauréat, mention assez bien. Depuis l'année précédente, le professeur d'éducation physique du lycée est un ancien champion d'athlétisme. Avec les meilleurs éléments des grandes classes, il a constitué une équipe qu'il entraîne rationnellement. Au printemps de 1957, Marc participe à ses premières compétitions dans des tournois scolaires. Durant cette année de première, il découvre les surréalistes et écrit de nombreux poèmes. 1958, en janvier et en mars, un groupe de lycéens, dont Marc est l'animateur, publie une petite revue littéraire, Le Centripète. Au championnat de France scolaire et universitaire d'athlétisme, Marc remporte le 800 et le 400 mètres.
C'est un stéréotype vraiment travaillé,
Gilles Lapouge.
Affiné, c'est le stéréotype de l'écrivain maudit, mais sous un vêtement de lumière, dans la pleine clarté, avec cette actrice que personne n'a jamais vue, évidemment, et qui est une merveille ambulante. Quoi.
Adieu, Marc, tu marcheras toujours devant moi. Désormais, je n'approcherai plus du New Jimmy's à 3h du matin, sans imaginer sur le seuil une starlette sous le bras, cueillie de la dernière danse et que peut-être tu ne reconnaîtrais plus le soir. Je m'étonnerais qu'au bar, tu n'aies pas, comme certaines fois, réglé par avance notre addition. Comme tout le jour tu vendais du vent, les billets s'envolaient généreusement de ta poche. Tu étais princier. Tu traversais le monde et la vie avec la même élégance désinvolte. Tu n'avais jamais l'air de travailler, même dans ton bureau des Champs-Élysées où, dans un quatuor de téléphone, tu dirigeais un ballet de maquettistes et de concepteurs. Le vilain mot, bâtardement conçu. Et pourtant, tu étais un de nos plus brillants publicitaires. De tes poèmes, de tes écrits, tu ne parlais guère. Ils étaient la face cachée de ta vie.
Est-ce qu'on peut penser, avec justement cette manière de souligner le fait qu'il était sur la place publique, qu'il recherchait la lumière, qu'il avait comme ça cette vie un peu fastueuse, est-ce qu'on peut penser aussi aux nouveaux philosophes qui, à l'époque, utilisaient un peu
bien
comme
entendu,
ça
entendu, complètement les nouveaux philosophes. C'est pour ça que je crois que j'ai un peu cherché, moi, je l'ai relu ces jours-ci, évidemment, parce qu'il y a 30 ans que je ne l'avais pas lu, j'ai un petit peu cherché à repérer, si on pouvait dire, Huguenin, oui, Nimier, oui, mais il y a aussi, évidemment, Bernard-Henri Lévy et tout ça. Il y a même Solers, qui pourtant s'est prêté à la photographie. Donc, c'est toujours en demi-teinte.
Les nouveaux philosophes, on ne les jugeait pas sur les qualités littéraires, on les jugeait sur leur intention politique, quand même. C'était avant tout des pamphlétaires qui avaient des cibles.
Denis Roche.
Et ils écrivaient des livres pour attaquer ces cibles. Donc, c'est tout à fait différent, ça. Je vois pas ça chez Ronsard. Les hussards n'étaient pas des grands écrivains, mais ils avaient tous une constante entre eux, c'est qu'ils en voulaient. Bon, ils écrivaient tous une littérature agressive, drôle, trépidante, rapide, qu'on la juge pas bonne ou bonne, peu importe, mais il y avait une volonté de foncer qu'il n'y a pas du tout chez Ronsard. Ronsard, c'est un personnage, c'est un jeune auteur passe-partout, qui peut être identifié à tout et à rien en même temps. Extrêmement bidon. C'est mauvais et bidon. Bon, légèrement, pour que le lecteur ne s'en rende pas compte tout de suite, mais un jeune écrivain qui écrirait des choses comme ça n'aurait aucune chance d'être publié où que ce soit, que ce soit dans les années 70 ou maintenant, franchement. Non.
1961-1963. Licencié en droit et en sociologie, Marc Ronsard fait son service militaire. En décembre 1963, il entre à l'agence Polypublicité. 1965. Mort en mars du père de Ronsard et en mai de son meilleur ami d'enfance, Maurice Remontrant. 1966. Publication de son premier recueil de poèmes, Sol mémorable, en avril. Le livre fait l'objet de quelques critiques brèves et favorables. Art, Les Lettres françaises, Le Figaro, Le Monde, Combat, Sud-Ouest. Marc Ronsard, qui fréquente les boîtes à la mode et s'est lié à quelques jeunes journalistes, commence à avoir une petite réputation parisienne. 1969. En mai, publication de Runes et en octobre du roman L'Architope, qui obtient 4 voix au Goncourt et connaît un inestimable succès. À la fin de l'année, Marc devient l'amant de Fabienne Corot, qui vient d'avoir son premier grand rôle dans un film dont il assure le lancement publicitaire. Leur liaison, assez tumultueuse, sera souvent évoquée dans la presse à sensation. 1972, en mai, rupture définitive avec Fabienne Corot.
Au fond, il ne veut pas vraiment faire croire que Ronsard a existé. C'est pas tout à fait ça son intention. C'est plutôt d'inventer une espèce de Ronsard qui serait une...
Gilles Lapouge.
Une globalisation, une addition de tous les travers, de tous les ridicules de la société intellectuelle ou culturelle ou littéraire de son époque.
En réalité, ce que j'ai voulu faire dans ce livre...
Apostrophe, 21 avril 78.
C'est montrer, d'une part... un certain nombre de formes de la littérature d'aujourd'hui, c'est jouer avec, et c'est aussi montrer que toute lecture et toute critique est d'une certaine manière fiction. Quand on parle d'un livre, on ne parle pas exactement de ce livre, ou alors on réécrirait ce livre, comme ce personnage de Borges qui réécrivait Don Quichotte.
Mais c'est un roman de Borges, ça, en fait.
Ça peut être
oui, avec une fin borgésienne, les dernières pages.
Non, mais bien sûr, mais c'est très ça, possible
et
que ce soit
extraordinaire, c'est quand on a lu ce livre-là, on ne peut pas douter de l'existence de Ronsard. C'est-à-dire que c'est effectivement, il lui a donné une épaisseur, il lui a donné une œuvre, il lui a donné une vie.
Oui, mais les photos avec vous,
ça a été truqué, je veux dire, on avait été
plusieurs.
Et je veux dire que c'est ça qui est étonnant. Mais c'est, au fond, finalement, ce Ronsard existe, ça je suis persuadé, et il y aura des études sur l'œuvre de Ronsard. Mais ce qui est bien, c'est qu'en vérité, derrière dans cet ouvrage, il y a une sorte de moquerie quand même du langage critique d'aujourd'hui, de la poésie, c'est vrai.
Et même, pas une moquerie de la poésie.
Certaines poésies.
Non, certainement pas. Mais il y a un jeu sur le langage critique, et étant donné qu'à la fin, on apprend que Ronsard, ce n'est peut-être pas lui qui a écrit ces textes, mais un autre, parce que Ronsard était un mystificateur,
c'est vous.
Shakespeare n'était pas Shakespeare.
C'est vous qui les avez
écrits. À ce moment-là, si cette fin est admise comme vraie, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'articles critiques, puisque le livre est fait d'une succession d'articles critiques sur Ronsard, qu'un certain nombre d'articles de critiques disparaissent, et notamment tous les articles qui se réfèrent à la biographie de Ronsard, puisque ce n'est pas lui qui l'a écrit, toutes les références entre l'homme et l'œuvre disparaissent. Finalement, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'à partir de, qu'on produit toujours de la critique à partir d'autres textes, et que...
Vous mélangez les pattes, là, non ?
Non, pas du tout.
Là, c'est Ronsard ou...
Ça peut être Ronsard aussi.
Bon, c'est Ronsard. Bon. Alors, pour terminer, vous savez que c'est une collection très prestigieuse. Regardez, la lettre R, avec Ronsard, il y a Jules Renard, Rilke, Rimbaud, Romain Rolland, Ronsard et Rousseau. Il est quand même bien placé. Hein.
Juguler le dogme et la routine qui, d'ordinaire, gouvernent leçons et plantations. La mauvaise herbe jaillit, hurlement, et comme fait le délire du discours rhétoricologique, envahit, libère les espaces quadrillés. Champs bornés, labours finis, vergers clos, les rend à la vivacité vierge de la vie. Par chien dent et cri, la semaison s'outrepasse en subversion. Du sol, du signe, par qui, en démiurge, s'érige le signataire, le maître du semant. Graines fécondes et phonèmes. Dans le sillon et pareillement l'oreille, plantes ou phrases délicatement déposées poussent, croissent, se déploient, mimant la règle végétale, syntaxique jusqu'à l'enfant explosif, décisif débordement, noyant, retournant tout, du sens de la sève. Dans le sillon, l'oreille d'abord, germe sauvage et langue de schisme.
C'est certainement une œuvre qui est une œuvre polémique, d'une certaine manière. C'était pas un personnage polémiste, lui, pas du tout, mais il en avait un petit peu assez, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, il en avait un petit peu assez d'une critique qui était de plus en plus abstraite, de plus en plus loin, pas des textes, au contraire collant aux textes, mais à tel point qu'il disparaissait presque, et puis loin des problèmes du temps, loin de l'imaginaire, et loin de la création littéraire au sens habituel du mot. Alors, ça les exaspérait, c'était, si vous voulez, c'était quand même la fin de la grande époque de la littérature expérimentale, du nouveau roman, de tout ça. Et puis, il y avait le structuralisme aussi qui était venu couronner tout ça. Alors, tout cela ensemble faisait que la littérature française s'était un petit peu devenue un petit peu stérile, décharnée un petit peu. Et là, il y a une réaction, parce que je crois qu'en filigrane de tout ce qu'il dit, il y a une moquerie gentille, mais permanente, contre tous les lieux communs de la critique de cette époque. De cette critique-là, c'est-à-dire de la critique textuelle, qui d'ailleurs continue, elle n'est pas morte malheureusement, mais aussi de la critique psychanalytique, par exemple. Et là, on voit très bien pourquoi, parce que nous étions sursaturés par un grand personnage, moi, que j'ai bien connu et que j'admire encore, qui est Lacan, mais on peut être un très grand personnage, et l'usage qu'on fait de ce grand personnage peut être vraiment fatigant et presque dégoûtant.
La caverne résume tous les orifices féminins et assume leur fonction. Par elle, la terre-mère prend corps, devient tentation, lieu d'origine, de désir et de savoir, se fait pénétrable et connaissable. Dans la seconde strophe, la descente du spéléologue jusqu'au sale couloir laverie cataracte, où réside, fonctionne, s'épure et se dilue la mémoire engloutie, nettoyée de notre gésine planétaire, est visiblement comme l'entrée et le séjour de Batave dans la grotte, un acte sexuel. Ronsrail, certainement, avait la nostalgie de l'état fœtal et souffrait d'un Oedipe mal guéri. Transposant cette nostalgie et ce désir secret sur l'image de la terre-mère, loin de les voiler, il les avivait, les enrichissait de multiples connotations et en faisait les figures maîtresses et directrices de son œuvre, figures qui, au point culminant, dans la caverne de Batave, dans la cave où Martial, pris sous les jupes de la grosse Françoise, respire une odeur champignonneuse de glaise moussue et de vulve mouillée, tendent à s'unifier. Coïncidant avec l'inceste, le retour au ventre maternel n'est plus retour au sommeil primordial, mais éveil de la conscience, mise à jour de ce qui était refoulé dans les profondeurs de l'inconscient, enfoui dans les limbes de l'humanité. Lorsque Batave se glisse dans l'anfractuosité, la fente se roule et jouit dans la caverne, cet inceste avec la terre-mère annonce la renaissance du premier homme.
Il y a aussi un article très pointu qui peut faire penser à des articles un peu de sémiologie ou qui peut rappeler Barthes aussi, quelque chose comme ça qui est presque illisible et qui est aussi un pastiche de cette critique de l'époque.
C'est un pastiche aussi, peut-être pas directement de Barthes en lui-même, mais de ce que représente Barthes, en tout cas du lieu qu'occupe Barthes dans la société intellectuelle de cette époque. C'est un pastiche, mais là encore, ça n'est jamais méchant, hein, c'est pas féroce. D'ailleurs, eût-il été méchant, eût-il été féroce que... dans ces articles-là, que ça aurait détruit la totalité du projet, puisque on se serait très vite dit, bah ça c'est un canular, c'est pour ça que c'est tellement violent, etc. Là où il est fort, c'est que d'une part on ne sait pas très bien quelles sont ses cibles. En réalité, c'est un petit peu tout ce qui est pédant. Mais le pédant, ça peut être de la psychanalyse, ça peut être du structuralisme, ça peut être de la critique textuelle, ça peut être Sixous ou même Duras, ou je ne sais pas, enfin, bien que j'admire beaucoup Duras, hein, en ce sens, il y a peut-être un usage de ce livre, mais disons en gros de ce genre de livre, qui est un usage supplémentaire, et c'est que ça nous permet peut-être de mieux voir ce qu'était cette époque-là.
Coupure de presse du 16 novembre 1976. Dernière nouvelle. Ronsraille était-il un imposteur? Une dépêche de l'AFP nous apprend qu'un interne de l'hôpital psychiatrique de Cahors, s'intéressant aux écrits de malades mentaux, aurait découvert dans la petite bibliothèque de l'établissement plusieurs liasses de manuscrits dont le contenu l'a très vite surpris. À l'examen, les textes de ces manuscrits laissés par Maurice Remontrant, un pensionnaire de l'asile mort à 24 ans en 1965, seraient très exactement ceux des recueils « Sol mémorable »,« Rune », »,« L'imagerie mécanique du professeur Batave » et du roman « L'architaupe » que Marc Ronsraille devait publier sous son nom dans les années suivantes avec le succès que l'on sait. Le docteur Larchet présentera les manuscrits à la presse le lundi 20 novembre et les tient à la disposition des chercheurs. Il rappelle que, d'après l'étude de M. Pépin et des articles parus dans un quotidien du Sud-Ouest, Maurice Remontrant, natif de Saint-Jean-d'Angély, était l'ami d'enfance de Marc Ronsraille. Faut-il en conclure que celui-ci, après la disparition de Remontrant, s'était approprié ses œuvres? Voilà une question qui fera couler beaucoup d'encre.
Le faux est devenu tellement faux que même celui qui a fait un certain nombre de faux dedans ne se reconnaît plus, quoi. C'est très bien. Et je trouve que l'épilogue du livre est formidable, que tout d'un coup, on découvre que Ronsraille n'a jamais écrit une ligne et qu'il a tout piqué à un autre jeune homme. Donc c'est le faux dans le faux, c'est une idée merveilleuse.
Alors vous avez raison tout à fait, ça montre que tout ça est complètement vain. Et que, en définitive, c'est vrai, peut-être que c'est la littérature en elle-même qui est un gigantesque faux.
Apostrophe, 21 avril 78.
Je dois vous faire une confidence, que bonne foi, c'est que des photographies attestent que Marc Ronsraille est venu apostrophe. D'après vous, Marc Ronsraille est mort le 19 avril 1973, il y a donc pratiquement exactement 5 ans, hein, ouais, presque 5 ans, presque jour pour jour. Il est mort en 73, apostrophe a commencé début 75. Voulez-vous m'expliquer comment un auteur qui est mort en 73 peut passer à apostrophe en 75?
Bon, eh bien, je pense que vous savez, comme moi, que entre la littérature et la vie, et entre les livres et la vie, il y a toujours une différence. Si les livres représentaient la vie exactement comme elle est, ce serait toujours assez triste. Les livres inventent toujours un peu, et il y a toujours une petite part d'anachronisme dans les livres. Et avant d'aller un tout petit peu plus loin...
Bon, allez, avouez.
Bon, oui.
Alors avouez.
Ronsraille est une invention. D'accord.
Il n'a jamais existé. Vous vous rendez compte?
Quelqu'un qui n'existe pas mérite un livre comme ça, alors le nôtre doit être beaucoup plus lourd.
Alors voilà, dans cette célèbre collection, il n'y a pas Ustinov, il n'y a pas Pierre-Jean Rémy.
Il n'y a pas Henry James, il n'y a pas Musil, il n'y a pas Conrad, il y en a d'autres.
Et il y a Ronsraille.
Seuls étaient au courant au seuil les gens qui avaient participé de près à la fabrication du livre. Donc vraiment 5-6 personnes en tout. On n'a rien dit aux représentants. Ils ont trouvé la pilule un peu amère après. Et donc, évidemment, ils ont proposé le livre Ronsrail au libraire, comme si c'était un livre, c'est tout. Le numéro 100 de la collection, et en vantant le mérite du Seuil d'oser publier dans une collection de poches illustrées, ce qui coûtait très très cher quand même, comme investissement, un jeune auteur quasiment inconnu. Donc, pendant quelques semaines, le Seuil a été formidablement bien vu par la librairie. Bon, on faisait un effort. Et on avait mis dans la confidence deux critiques, Poirot Delpech et Pivot. Poirot Delpech a fait donc son feuilleton, mais avec des ricanements, des allusions que peut-être, mais non, pas tout à fait, enfin en faisant le rigolo, au cas où quelqu'un lui reprocherait de s'être fait avoir par cette fumisterie. Et Pivot, donc, invite Claude Bonnefoy lui fait raconter le livre, comment il a connu Ronsrail, etc. Tout ça très, très, très sérieusement. Et à la fin, je crois qu'il a fait passer Bonnefoy à la fin de l'émission. Et à la fin, Pivot se tourne vers la caméra et dit « À ce stade, je suis obligé de dire que c'est un faux, etc. » Il dévoile tout le truc. Alors j'étais un peu surpris quand même. Je suis allé le voir, je lui ai dit « Mais je ne comprends pas pourquoi vous avez tout déballé comme ça. » Il m'a dit « Il n'y a que deux choses qui me faisaient virer à coup sûr du jour au lendemain de la télé, c'est si quelqu'un vomit en direct. » Alors le cher Bukowski a failli vomir en direct, et c'est pour ça qu'il a été évacué manu militari du plateau. Et il m'a dit « je ne peux pas, la télé publique ne peut pas passer un faux, c'est pas possible. » J'aurais été convoqué le lendemain matin et mon émission virée. Il aurait pu me prévenir, je ne sais pas, je ne sais pas trop ce qu'on aurait fait. Ce qui fait que du jour au lendemain, évidemment, ça s'est arrêté net.
Après le vide, le mutisme. Creux, 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 ma pioche. Creux, creux, creux. Au trou, pas de quoi? Chut. Non. Crac, fuit. Le crac, fuit, qui clôture l'architope, ne met pas seulement fin à un roman. Symboliquement, il tord le cou au discours romanesque. À tout roman.
Écoutez, je suis pas dans le secret des écoles littéraires dominantes de l'époque.
Robert Sabatier.
Mais mon impression est que ça ne les a pas intéressés du tout, quoi, qu'ils ne s'en sont pas du tout préoccupés. Que ça a été un petit incident en marge de la vie littéraire qui n'a pas prêté à conséquence.
Enfin, il faut se replacer dans l'époque. Le livre est sorti en 1978. Fin des années 70, les années 70 ont été, nul ne l'ignore, une période, c'est la période où les universitaires sont sortis des universités et se sont répandus dans les collections des maisons d'édition, entre autres. C'est une époque où la littérature en tant que telle, pas seulement les romans, étaient considérés comme quelque chose de mineur, de nettement moins urgent. C'est la période des années 70 de l'apparition et de l'énorme impact commercial et intellectuel des sciences humaines. Après, ça s'est inversé dans les années 80 et 90 particulièrement. Vous le savez bien, tous les grands éditeurs ont sorti de moins en moins de livres de sciences humaines, parce que ça ne sortait plus du tout. Et les professeurs sont retournés, si je puis dire, c'est de la métaphore, dans leurs universités. Et donc je pense que les années 70 ont été des années dures, c'est-à-dire sévères, où tout ce qui venait contredire l'esprit de sérieux il faudrait trouver une autre expression, parce que c'était bien au-delà de l'esprit de sérieux. Il ne faut pas oublier aussi que cette époque-là était totalement politisée. Donc il y avait les sciences humaines, et en même temps c'était totalement investi par les différents acharnements politiques qui faisaient qu'on pouvait encore moins. Il n'y avait pas d'espace pour autre chose. Et c'était très très compliqué. Et donc, un livre comme celui de Bonnefoy était non opérationnel à un point absolu, quoi. C'était même pas un contresens pour cette époque. C'était pire que ça, quoi. Ça pouvait même pas être iconoclaste. C'était à côté.
C'est le moment du retour au récit, et il y avait une espèce d'atmosphère qui étouffait le roman. Et d'ailleurs, ça coïncide à peu près avec l'époque où il y a eu une violente réaction contre cela, une réaction en partie double, même plus que double, multiple. Et on a vu fleurir dans les années 80, je crois, petit 90, beaucoup de choses qui prenaient la peine de retrouver un petit peu la vertu de l'imaginer. Je cite au hasard le Festival de Saint-Malo, par exemple, avec Michel Lebris. Donc je crois que c'est un livre, ce faux écrivain Ronsard, c'est un livre qui est un symptôme remarquablement précis de cette période de l'histoire littéraire.
C'est un oiseau assez rare, un bel oiseau assez rare. Il nous a manqué, il nous a séduit et il est parti. C'est bien ? Mais vous a-t-il séduite, vous ? Oui, oui, oui.
Merci.
C'est une bonne chute.
Oui.
Merci à Nicole Bonnefoy, Gilles Lapouge, Philippe Morand, Pierre Auster, Denis Roche, Robert Sabatier et aux éditions du Seuil. Archivina Olivier Tosserie, texte lu par Quentin Bayot et Antoine Lachan, bruitage Alain Platiot, mixage Valérie Lavalard, réalisation Marie-Christine Closet, une émission de Perrine Carbon.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 24 juin 2008. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
D'avril, je m'étais découvert d'un fil. Était-ce le hasard ou l'instinct, ou bien le clin d'œil du destin, confirmant l'oracle annoncé? La chance vient toujours frapper lorsque l'on s'y attend le moins, et le meilleur arrive enfin. La bière a un goût de miel, de vanille et caramel. Traverser Paris en courant sur la seule magie de l'instant, du message clair de tes yeux. Quand l'amour fait signe, suivez-le. Toujours trop loin m'attacher, et si loin me détacher, mon cœur sauvage et arrogant se découvre tendre et confiant.